patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui encore avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Aujourd'hui, seconde partie de la lecture de ce poème, de l'ouvrage de Gilles Lade, Conte des Mille Collines. Et donc aujourd'hui, deuxième partie du poème Alexis aux Mille Collines. Chantal, je vous laisse la parole.
Opérant un franc virage, il redescendrait en suivant la bordure du Ségala. S'engagerait dans le pays de l'entour, étrange et accidenté, et se laisserait aimanter par les châteaux de Mérignac-Lentour et de Seigne, le premier de loin visible sur son éminence, et comme extrait d'un pays de légende, et celui de Seigne émergeant tel une gentilhommière des environs du village et dévoilant sa façade la plus mystérieuse depuis un vallon dérobé au regard. C'est alors qu'il retrouverait bientôt le Cosse, le plus souvent plat de Thémines à Livernon, l'église d'acier apparaîtrait de loin dans les bois comme un rocher gris. Après une longue halte devant le château Renaissance de Galliot de Genouillac, dont la belle façade intacte donne tout essor à l'imagination, il retournerait à Cagnac pour se reposer, retrouver les siens et renouveler son chargement. Puis il repartirait vers la vallée du Célé en traversant Quissac et Espédaillac. Ces deux villages lui semblaient exprimer la quintessence du Cosse. Le premier, au cœur de la Broyne et au centre d'un grand cercle de collines, jalonné de murets en étoiles. Le second, échelonné sur une pente douce depuis la maison noble du Pouget et le vaste espace herbeux du Cossanel aux deux laquais, jusqu'à la lisière insensible des bois. Aux alentours, les collines étaient amples. On les voyait de loin, si l'on gagnait insensiblement leur fête sur plusieurs kilomètres. Si la forêt de la Broyne restait opaque et touffue, ses abords déployaient de vastes landes, parsemées de menus arbustes. Parfois, l'on était prisonnier d'une combe immense, partagée par un interminable chemin blanc. Périodiquement s'ouvrait une percée vers les lointains. Dans les villages et les hameaux, l'on bâtissait de nouvelles demeures selon une disposition aérée et de belles perspectives. Peut-être au mois de mai croiserait-il de nouveaux troupeaux de brebis transhumant vers l'Auvergne. Mais il tenait aussi à rencontrer un prêtre ermite venu d'un diocèse voisin et qui s'était retiré dans une petite maison à l'écart de la route. Il n'était jamais sûr de le trouver, car l'homme aimait se promener dans les bois et se rendait souvent à la très ancienne église Sainte-Apollonie, délaissée par le culte au hameau de Genouillac. Ce rectangle presque aveugle, aux angles arrondis, posé dans les champs, passait presque inaperçu. L'on faisait remonter sa construction au Xe siècle. Alexis trouvait l'homme de Dieu assis sur une chaise à moitié, dans la lumière et face au cœur. À l'arrivée du colporteur, il souriait, nullement contrarié de devoir interrompre sa prière. Alexis, à son tour, saisissait une des rares chaises disponibles et la conversation s'engageait. Le prêtre avait la délicatesse de ne pas lui parler de religion. Il prenait plaisir à découvrir ce qui s'était passé depuis leur dernière rencontre. Il regardait attentivement le jeune marchand, puis décelait s'il était éprouvé, fatigué ou confiant. L'homme des grands chemins ne décelait pas de curiosité chez l'ermite, simplement le désir de l'accompagner avec une infinie bienveillance. Parfois, le vieil homme évoquait un épisode de son enfance. Alexis avait bénéficié de ces sortes de confidences de la part de sa mère et de certaines aïeules. car la sagesse était bien à l'œuvre en Quercy, et l'on aimait avertir, édifier les jeunes en faisant appel aux leçons du passé. Mais de la part de l'ermite s'ajoutait une interrogation sur le sens de l'existence. Travailler, oui, mais pourquoi? Dans quel but? Sa suavité persuasive, doublée d'une subtile autorité, rendait Alexis songeur. Où était le sens de la vie? Oui, il avait été baptisé, mais il ne faisait pas toujours le lien avec son existence. Un jour, ils étaient revenus au domicile de l'ermite. Ce dernier multipliait les remarques sur les animaux, les champs, les bois. Dans la petite maison, la conversation avait continué, puis avant qu'ils ne se séparent, le vieil homme se tourna vers lui. « Acceptes-tu que je te bénisse ?» Alexis resta un moment interdit. Alors son hôte le devançant, « Tu peux faire une mauvaise rencontre, être volé, suivre de mauvais conseils. » Alexis comprit que l'ermite veillait fraternellement sur lui. Il accepta sa bénédiction et se sentit rasséréné. Après avoir traversé une sorte de large dépression en plein Causse, il prit un raccourci vers le Célé, à travers le pêche de Ligoussou. Les collines de la Broyne semblèrent s'élever dans son dos. Si le côté d'acier restait plat, des hauteurs se dessinaient vers Blas. Il franchit alors le Célé, en amont de Corne, puis rejoignit la route reliant Figeac à Cajard. Il s'arrêtait dans les hameaux, mais prenait aussi le temps de contempler les lointains, surtout lorsqu'il suivait les crêtes, comme aux abords de Gréalou. C'est là qu'il prenait la mesure de son pays et du caractère insaisissable des collines dans la lumière. Côté Célé, le regard portait bien au-delà de la vallée. Côté Lot, une barrière de pêche limitait la perspective. Il continuait en direction de Saint-Chel, tout en admirant l'ampleur de la vue vers le nord, qui mettait en évidence le pic Saint-Joseph au-dessus de Saint-Céré. Et plus encore, les monts d'Auvergne, bleu-gris en été et blanc de novembre à mai. Il ne se lassait pas de cette immensité où circulait un air léger et vif. De grandes étendues d'herbes blondissaient en été et devenaient grises en hiver. Le Cornouillet y installait en février des rameaux dorés et les genévriers, alliés à des herbes pleines de suc, communiquaient à l'air une prenante vivacité. Les grandes étendues se pommelaient de quelques chênes et révélaient les toits vifs des villages du Causse de Gramin. Puis la route devenait un chemin en continuant vers Conduché au confluent du Lot et du Célé. Entre les deux vallées, la piste somnitale révélait maintes et maintes collines, surtout en direction du nord. Alors Alexis avait l'impression d'avoir la moitié du Quercy sous les yeux. Il aimait se retourner vers la tour de Nouguérac, dans le vallon sud, comme un témoin immuable et serein du passé. Son parcours de terre rouge. Il rencontrait alors des groupes de mariniers qui, prenant au plus court vers les hautes terres de l'Aveyron et du Cantal, continuaient leur chemin. Il prenait plaisir à deviser avec eux. Certaines fois, il remontait directement vers le Causse de Gramat. D'autres fois, il empruntait le pont récent de Tour de Fort, gagnait Saint-Cyr-la-Popie, où il aimait se mêler aux artisans et à la vie active du village. Il redescendait, s'arrêtait devant la gare de Conduché, où il attendait quelques voyageurs, puis il partait en direction de Saint-Géry avant de monter la côte de Masserie. Il s'arrêtait un moment devant les falaises de la rive opposée. Une fois le sommet atteint, il abordait une vaste forêt appelée le Bois Grand, bois presque toujours plat, où l'on perdait ses repères. Alexis y rencontrait de grandes étendues de buis mêlées à d'autres arbustes. Un jour, en s'approchant d'une clairière, il aperçut une toute jeune fille, presque une enfant. Dans ses mains, un fin bâton de noisetier indiquait qu'elle gardait les brebis. Il les entendait d'ailleurs un peu plus loin, dans une légère pente, aveuglée par les arbres. La jeune fille était de Cabreret. Elle lui avoua qu'elle craignait un loup qui rôdait dans la contrée. Son chien ne semblait guère pouvoir protéger son troupeau. Elle continuait de venir ici, entre crainte et courage, en attendant un emploi plus sûr en ville, dans une maison bourgeoise. Alexis la rassura. Le loup n'attaquait que très rarement les humains. Par ailleurs, le printemps arrivait. Elle eut un sourire. Alexis lui souhaita bonne chance dans son nouvel emploi, même si, égoïstement, il souhaitait la retrouver pour la douce présence dans l'âpre et sévère solitude. En continuant son chemin par les sources de la Sagne et les villages au-delà de l'Ozès, il se souvient que voilà un an, non loin d'ici, il avait aperçu un loup. Il n'avait ce jour-là que la hotte sur le dos et il était parvenu sur un replat. Il fut alerté par un bruit ou par un mouvement à une cinquantaine de mètres. Alors, sur le fond d'une végétation touffue, il vit s'inscrire la silhouette d'un loup, immobile. Alexis marcha vers lui, dans une grande sérénité et un total silence. L'animal se redressa, apparemment exempt de crainte. Alexis avança encore de quelques mètres. L'autre restait parfaitement impassible sur fond de garrigue. Nulle peur de part et d'autre. Puis Alexis regarda un instant à droite, ayant cru entendre quelque chose. Quand il tourna de nouveau le regard vers le loup, il avait disparu, irrévocablement et en silence. Le retour chez lui était peut-être le moment le plus éprouvant. Il mettait fin à quelques jours ou à quelques semaines d'aventure. Il y avait toujours du nouveau et de l'imprévu dans les rencontres, parfois même dans le temps qu'il faisait, orage, tempête, neige, froid, chaleur extrême. Il formait avec son âne une société de regards, d'humeur et de tendresse. Leur langage était fait de quelques mots d'exclamation, de brefs onomatopées et de tout le non-dit. L'homme savait jusqu'où se montrer impérieux et l'animal, lui, n'hésitait pas à imprimer ses exigences. Dès qu'il arrivait à Cagnac, Alexis rejoignait les siens, particulièrement ses parents, qui s'acheminaient doucement vers la complète retraite. Ils secondaient leurs fils aînés, surtout pour le bétail, ils étaient l'élément rassurant de la famille et leur avis était respecté. Alexis et ses parents étaient peu démonstratifs, mais il suffisait d'un sourire et d'une flamme dans l'œil pour raviver leur mutuelle affection. Le colporteur retrouvait aussi son frère, sa belle-sœur, actifs au possible, parents de deux jeunes enfants liés à leur tâche par toutes les fibres de leur corps. Un jour, au moment où Alexis allait repartir en campagne, il remarqua l'immense tristesse de Viviane. Elle lui dit « Tu n'as pas d'autre fiancé ?»« J'en suis sûre. » Il lui assura que non. Elle gardait le silence. Il fut ému jusqu'au cœur par le profil perdu qu'elle lui offrait. Ses longs et épais cheveux bruns, ramené en arrière et qui dégageait son cou en un symbole d'abandon et de vulnérabilité. Il la devina véritablement résignée, abandonnée, comme désespérée. Il posa la main sur son épaule, elle se retourna et vint se blottir contre lui, non sans lui avoir adressé un regard furtif. Au bout d'un moment, alors que la nuit tombait, ils se dirigèrent vers la maison où l'âtre rougeoyait encore. Il s'était fait un grand silence. Il le partageait étrangement, dans une certaine solennité. Il lui dit « Demain, je pars pour la dernière fois. » Ils entrèrent lentement dans la demeure tout animée d'arômes séculaires. Alexis sentait venir à lui la chaleur du foyer, comme un adieu au monde d'un grand vent et des collines qui continueraient de le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Voilà donc la fin de ce voyage à travers le Causses.
Merci beaucoup Chantal. Eh bien, écoutez, on fera un autre voyage lors de la prochaine émission, je suppose.
Oui. Alors j'espère, oui, que cela vous plaît et que vous aimez partager notre plaisir, hein, notre plaisir commun à Armand et à moi-même. À bientôt et
à
merci
bientôt.
De votre écoute.
Au revoir.
Au revoir Armand.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.